Phare FM, Radio Oméga et Radio Arc-en-Ciel font vivre en coulisses la web radio du Centre évangélique.
Voilà, de retour dans coulisses, hein. Donc on vous fait vivre pendant 10 heures de temps aujourd'hui et demain les coulisses du Centre évangélique, cet événement qui se déroule actuellement même, hein. On s'installe ce matin et on va vivre deux jours d'événements ensemble, un événement qui a vocation effectivement à rassembler les œuvres issues du monde protestant évangélique, une centaine d'associations qui se retrouvent, qui se rencontrent, et j'imagine qu'on se connaît aussi déjà un petit peu, hein, entre ONG, entre écoles, entre libraires, voilà, c'est effectivement des liens qu'on peut continuer effectivement de resserrer, puis nous on en profite, hein, tout simplement pour vous faire vivre un petit peu ces moments et vous immerger dans ces réalités aussi. On en connaît certaines mais pas forcément toutes. On accueille notre invité suivant, Jean-François Mouhot de A Rocha. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc bienvenue avec nous, et bien on va bien sûr découvrir A Rocha pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est grave.
Ouais, alors bonjour Jean-François. A Rocha, c'est une ONG, on peut dire ?
Oui, on peut dire ça.
Ouais, c'est une ONG qui a été créée au Portugal dans les années 80, si je ne me trompe pas. Et elle était finalement avant-gardiste, puisqu'elle se préoccupait d'un sujet qui maintenant est devenu brûlant. Il l'était déjà à l'époque, mais on le savait peut-être moins. C'est se préoccuper d'écologie et de protection de l'environnement. Oui. Et c'est une ONG chrétienne. La branche française, Jean-François, dont vous êtes directeur, existe depuis quand ?
Depuis février 2000.
Donc on a un peu de retard sur les Portugais finalement.
Non, effectivement, c'est une association qui a été créée au Portugal, mais par un pasteur anglais du nom de Peter Harris, qui a donc créé en fait ce centre qui était une mission au départ au sud du Portugal pour effectivement témoigner en tant que chrétien de l'importance de prendre soin de la création de façon concrète en faisant des études sur le terrain, en faisant du travail de protection de l'environnement sur le terrain. Et ensuite, A Rocha a essaimé à partir de ce centre du Portugal. Donc, A Rocha, ça veut dire le rocher en portugais. Hein, et donc, à partir de ce centre initial, en fait, ça a essaimé un peu partout dans le monde. En fait, et aujourd'hui, A Rocha est présent dans 20 pays du monde en plus de la France.
Ça veut dire que la branche française comprend combien de, je sais pas, de salariés bénévoles. Ça représente quoi, en fait ?
Alors actuellement, on a 12 salariés. On a entre 50 et 100 bénévoles qui viennent aider chaque année. Dans nos centres, on a deux centres dans le sud de la France, mais on travaille aussi dans tout le reste de la France. On a ce qu'on appelle des ambassadeurs, qui est un mouvement qu'on a lancé il y a à peu près 2 ans, qui vise un petit peu à faire prendre conscience de la réalité de la crise écologique dans les églises. Et donc aujourd'hui, on a une trentaine d'ambassadeurs répartis un petit peu sur toute la France.
D'accord. Les actions concrètes d'A Rocha France, c'est quoi ?
Alors, on a deux pôles principaux. Le premier, c'est de préserver le vivant. Donc, on fait du travail vraiment de terrain pour prendre soin de la création de façon concrète en construisant des nichoirs, en plantant des haies, en faisant du travail vraiment d'entretien, de sauvegarde de la création sur des espaces naturels. Donc notre cœur de métier, c'est la biodiversité, comment prendre soin de la biodiversité.
Ici en France ou ailleurs ?
En France, dans le monde aussi, puisqu'on est présent dans 20 pays du monde sur les 5 continents. Ouais. Mais en France, voilà, en France en particulier. Et puis notre deuxième mission, c'est de mobiliser les chrétiens sur les questions écologiques. Donc on va... Par exemple, là, je reviens de Glasgow, j'étais à la COP26 avec 7 ambassadeurs d'A Rocha France. On a été vraiment présents sur place, on a prié pour ce qui se passait, pour les négociations. On a partagé avec tout ce qui se passait, on a partagé avec des médias aussi en France, on a écrit des articles, on a fait des interviews à la radio pour témoigner en tant que chrétien de l'importance que revêt ce problème aujourd'hui et qu'on a vraiment cette conviction que le Seigneur nous appelle à œuvrer pour ça.
Et le regard chrétien que vous apportez justement au travers d'A Rocha, est-ce qu'il a sa place ? Quelle place il a finalement dans le cadre d'un événement comme la COP26 ?
Eh ben, il a toute sa place parce que d'abord on a cette motivation qui est vraiment de prendre soin de la création, parce que pour nous, prendre soin de la création, ça fait partie du mandat chrétien. Dieu nous a demandé d'aimer notre prochain et de l'aimer comme nous-mêmes. Les deux principaux commandements, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et pour nous, aujourd'hui, on ne peut pas aimer Dieu et on ne peut pas aimer son prochain si on ne prend pas soin de la terre, en fait. Hein. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de ces notions de justice sociale, de comment. Et aujourd'hui, par exemple, le changement climatique, c'est un problème d'injustice sociale, puisque c'est principalement les gens dans les pays riches comme nous qui causons des dégâts dans les pays pauvres, qui subissent les dégâts du changement climatique, principalement. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu simple. Et donc, en tant que chrétien, déjà, on a envie d'être une voix un peu présente pour dire, nous, en tant que chrétien, c'est un sujet qui nous préoccupe. Et il n'y a pas tant de chrétiens qui se préoccupent de ça, donc c'est important qu'on soit là en tant que chrétien. Parce que sinon, les autres se disent, mais les chrétiens ne s'intéressent pas à ça, et ce n'est pas très bien pour l'image des chrétiens. Donc déjà, on a ce rôle un petit peu là d'être... voilà. Et puis, on a aussi une espérance qui est peut-être un petit peu différente quand le monde... je dirais politique ou scientifique, nous dit, ben, face au changement climatique, il y a deux principales voies d'espoir. L'une, c'est la technologie, et l'autre, c'est on va changer le cœur de l'homme, en quelque sorte. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais c'est on va tous créer une grande fraternité, etc. En tant que chrétien, on peut dire, ben, nous, on a aussi cette conscience que l'homme, il y a un problème fondamental dans le cœur de l'homme, c'est celui du péché. Et que c'est pas si facile que ça. Les chrétiens se sont déjà coltinés, enfin, pas que les chrétiens, hein, ce problème du péché de l'homme. Et comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut peut-être apporter quelque chose, une compréhension différente, un éclairage différent. Et puis, on a troisième axe, on a aussi un espoir, qui est l'espoir d'une terre renouvelée. Alors, on parle souvent dans les cercles évangéliques la terre va être détruite et ensuite elle va être remplacée par quelque chose d'autre. Alors souvent d'ailleurs, c'est pas très précis. On se dit, il y a encore certaines images. Parfois, on se dit, on va vivre le paradis, c'est dans les nuages, à jouer de la guitare,
de la lyre.
Voilà. Mais c'est pas vraiment la vision en fait dans la Bible. Quand on lit l'Apocalypse, on voit que en fait, c'est le royaume de Dieu qui vient sur terre. Et qui vient sur une terre renouvelée. En fait, le terme grec, c'est pas nouveau.
Aux cieux, nouvelle terre.
C'est bien des nouveaux cieux, nouvelle terre, mais en fait, c'est des terres. Il faudrait mieux traduire par une terre renouvelée. Hein. Et donc, ça montre en fait toute l'importance que Dieu prend à la création. C'est pas, il va tout brûler, puis on va tout recommencer à zéro, mieux. Non, non, c'est aussi notre mandat de prendre soin de cette création. Pour préparer la venue du royaume de Dieu.
Je me tourne un instant vers Nirine, oui. Donc de haute école théologique. Oui. J'imagine, on parlait tout à l'heure de la question des femmes, la place de la femme, qui est une question qui préoccupe énormément les jeunes aujourd'hui, mais vous côtoyez beaucoup de jeunes aussi. J'imagine que la question écologique préoccupe aussi très largement vos étudiants. Comment est-ce que ça se traduit chez vous ?
Oui, alors on aborde dans le domaine interdisciplinaire. Donc j'ai parlé des trois orientations tout à l'heure, donc on aborde ça. Dans les différentes disciplines. On a aussi un cours, hein, principalement enfin, sur ça, donc il y a création et anthropologie. Dans le cadre de le domaine de missiologie aussi, on parle de ça dans le cadre de la mission intégrale, où on parle vraiment aussi de la gestion de la création. Et puis, ben, on a aussi au niveau pratique, hein, on travaille avec les organisations aussi humanitaires ou non gouvernementales. Qui travaille aussi dans ce domaine-là dans le cadre du stage. Et puis, à la HET Pro même, on a même un jardin de permaculture. Donc, c'est pour aider les étudiants à avoir cette sensibilité-là.
Alors, Nirine, en tant qu'helvético-malgache...
Oui. Il a appris un mot. Hein.
Merci beaucoup, Nirine. Je repartirai moins bête ce soir. Surtout malgache, ouais. J'imagine que la question justement de l'environnement vous touche particulièrement, oui. Puisqu'on sait qu'il y a plus 80% de la forêt, oui, malgache qui a disparu ces dernières années.
Oui, il y a énormément de feux de brousse et tout ça. Alors bon, le frère a parlé tout à l'heure de problèmes, enfin, de l'exploitation par des pays du Nord, de ce qui se passe dans les pays du Sud. Mais il y a aussi le problème à l'intérieur même du pays, dans les pays du Sud, où il y a toute cette pratique-là, pratique de brûlis, par exemple. Il y a même au niveau culturel aussi, hein, parce qu'il faut changer pas seulement la pratique elle-même, mais aussi la mentalité des concitoyens. Il y a aussi la question de la justice sociale ou l'injustice sociale qui fait que, voilà, où les gens préfèrent garder ce qui est connu, ce qui est moins cher, que de changer, et alors qu'ils n'ont pas forcément les moyens de changer. Donc ça, c'est vraiment plutôt une problématique globale.
Ouais, et du coup, dernière question, est-ce que vous sentez justement chez les jeunes, vous qui en côtoyez beaucoup, des étudiants, mm-hmm, est-ce qu'une préoccupation qui est grandissante pour les questions écologiques, justement dans le cadre des formations théologiques,
Oui.
Il y a un sondage qui est paru il y a 2 semaines qui dit qu'il y a 75% des jeunes, je crois que c'était dans une vingtaine de pays du monde qui avaient été interviewés, qui trouvent le futur est effrayant à cause du changement climatique.
Bah, c'est vrai.
Ça donne un chiffre sur l'étendue de l'éco, ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Hein. Il y a de plus en plus de jeunes qui consultent des psys parce qu'ils ont une crainte par rapport à l'avenir, très importante.
Et du coup, est-ce que vous ressentez ça dans la formation théologique ?
Oui, il y a un intérêt vraiment de la part des jeunes. Ouais. Hein, et c'est pour ça qu'on tient compte aussi de cela dans le cadre de notre formation.
Merci beaucoup. Alors, Nirine, Jonah, on va vous libérer. On va, du coup, accueillir à nouveau Nathanaël Chang, Phare FM, qui nous fait le plaisir de nous faire vivre avec nous ce plateau durant 10 heures. Merci beaucoup.
Merci
et passez,
beaucoup
du coup, un très bon moment aussi.
Merci.
À l'occasion de ce centre évangélique. Et on garde avec nous le directeur national d'Arocha, effectivement, qui va continuer à nous faire partager ces éléments. Voilà, donc, jingle, et Nathanaël nous rejoint.
Phare FM, Radio Oméga et Radio Arc-en-Ciel font vivre en coulisses la web radio du Centre évangélique.
Voilà, l'événement Centre évangélique est lancé. Il va durer 2 jours. 2 jours avec effectivement l'espace Charenton qui est occupé à Paris. Une centaine d'associations, d'œuvres, d'ONG qui habitent ce lieu avec des stands qui se rencontrent, des œuvres issues du monde protestant évangélique. Et bien, nous, on est là pour effectivement vous faire vivre un petit peu cet événement et effectivement peut-être vous faire découvrir aussi toute une série d'organismes qui mènent tout simplement un travail extraordinaire. Avec nous, Jean-François Mouhot, donc directeur national d'Arocha. On continue ces échanges. Alors, est-ce que tu as été mauvais élève comme Jean-Philippe tout à l'heure ?
Alors, j'étais très bon élève, puisque j'étais avec mes prochains invités. Donc, du coup, j'ai pas entendu ce qui se passait ici, mais j'étais un très bon élève.
Donc, il a fait exactement comme moi, mais s'en sort bien.
Mais j'ai pris le pouls, en fait, et c'est vrai qu'on voit de plus en plus. Donc, maintenant que les stands sont quasiment terminés d'installer, on voit donc les gens qui commencent à arriver et vraiment une belle ambiance. Donc, on vous encourage ici à Paris. Espace Charenton, c'est dans le 12e arrondissement de Paris. Et venez nous rejoindre, vivre cet événement avec des invités très intéressants, avec donc Jean-François Mouhot. J'ai une question que je vais poser beaucoup, hein, mais à quelques mois de la présidentielle, cette question de l'écologie, elle est très importante. C'est des choses qu'on va se poser comme question. Alors, sans rentrer dans le débat politique, quelle est la réflexion que les uns et les autres on devrait se poser quant à l'arrivée de cette élection présidentielle qui arrive autour de l'écologie, bien entendu?
Alors, ça tombe bien. On a ce jeudi, donc dans 3 jours, un Zoom. On fait des formations on a donc un programme d'ambassadeurs dont je parlais il y a quelques minutes. Donc, il vise à former des chrétiens sur les questions de justice climatique, d'écologie, etc. Et on a dans 3 jours, justement, un Zoom qui va être dédié à ça, au plaidoyer. Et on va parler, justement, de qu'est-ce qu'on peut faire à l'approche de l'élection présidentielle sans prendre, effectivement, parti pour un parti politique ou un autre. Mais pour, en tant que chrétien, quel message on peut faire pour dire que ces questions nous interpellent, nous préoccupent, et qu'on a envie qu'elle soit prise au sérieux par les hommes politiques. Donc, je vous invite à venir sur le site internet d'Arocha France, arocha.fr, et vous allez voir, donc il y a donc ce Zoom ambassadeur qui aura lieu jeudi soir à 20h, sur lequel vous pourrez apprendre plus sur justement pour répondre à cette question. Voilà.
Du coup, reparlons effectivement de ce climat anxiogène qui avait été évoqué tout à l'heure. Hein, donc 75%, c'était ça le chiffre. Donc de jeunes qui craignent l'avenir, notamment en raison de questions qui entourent l'écologie. Et moi, j'avoue que je comprends cette peur. Et surtout quand on pense à nos enfants, etc., qu'est-ce qu'on va leur laisser ? Cette notion aussi de justice intergénérationnelle, hein, je crois, qui occupe beaucoup les questions écologiques. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui craignent ?
Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre ? Déjà, moi, à titre personnel, mais je crois que c'est aussi l'expérience de beaucoup de gens, c'est en m'engageant que j'ai pu apaiser cette angoisse, cette anxiété. D'abord, répondre à un appel de Jésus de se mettre en marche et d'aller... annoncer le royaume de Dieu. Et pour moi, annoncer le royaume de Dieu, ça veut dire se coltiner la réalité du monde aujourd'hui, puisque, encore une fois, le royaume de Dieu, il est appelé à venir sur terre. Hein, quand on prie notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Donc pour moi, le rôle des chrétiens, c'est pas de se dire on va juste, entre guillemets, juste sauver des âmes et finalement, peu importe ce qui se passe sur la terre. Pour nous, on est appelé vraiment à être le sel de la terre, à être des acteurs aujourd'hui. Ça rejoint ce que tu demandais tout à l'heure aussi, sur le plaidoyer. Donc la première chose, c'est de s'engager. Hein, voilà. Ensuite, c'est de rappeler aux gens, aux chrétiens, qu'on a cet espoir ultime, que la fin de l'histoire, parce qu'on entend beaucoup parler d'effondrisme, de collapsologie, je ne sais pas si ça vous parle, il y a pas mal de bouquins qui sont parus, qui disent tout va s'effondrer bientôt. Et la société, à cause de ces problèmes climatiques, énergétiques, etc. Et là, on peut dire, d'une certaine façon, ceux qui écrivent dans ce mouvement de collapsologie, c'est fondé sur le mot collapse, qui veut dire s'effondrer en anglais. Hein. Ils ont pas complètement tort d'avoir cette anxiété. On peut comprendre, mais en même temps, nous, on peut rappeler aussi notre espérance que la fin de l'histoire, ça se termine pas comme ça. Ça se termine pas par un effondrement. Ça se termine par le royaume de Dieu qui vient sur terre. Alors, il faut être très prudent, c'est un peu marcher sur une corde raide, parce que il s'agit pas de dire puisque Jésus va revenir et qu'il va tout régler à la fin.
Il y a rien à faire.
Ça, c'est un peu le danger. Et on entend ça dans certains articles d'évangéliques qui écrivent sur le sujet, qui, après avoir longtemps ignoré le sujet, d'un seul coup découvrent un petit peu le sujet de l'écologie, et puis là, se mettent un peu à faire la morale en disant « mais non, mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter ». Et ça peut être très mal perçu par des non-chrétiens qui disent « mais attendez, nous, ça fait 20 ans qu'on travaille, qu'on s'inquiète de ces problèmes, d'un seul coup, là, vous arrivez, vous nous dites « non, mais c'est pas grave, il y a Jésus qui va revenir ». Ça peut être très mal perçu, donc il faut être très prudent dans la façon dont on va communiquer sur ces sujets.
Finalement, c'est un de vos travaux, ça me fait bizarre de le dire comme ça, les plus importants, l'information, et puis aussi démonter des mauvais arguments, des mauvaises interprétations théologiques.
Oui, tout à fait. Alors, on fait des formations en théologie, par exemple. Donc, on a un centre dans le sud, à côté de Nice, dont la vocation est de former les chrétiens à l'écologie. Donc, on a des séminaires avec des théologiens qui viennent pour vraiment passer une semaine à étudier qu'est-ce que c'est que le changement climatique, qu'est-ce que c'est que la crise de la biodiversité, quelle est la théologie autour de ça. Donc, on fait vraiment des séminaires focus là-dessus. On est dans un cadre naturel magnifique, donc on en profite aussi pour emmener les gens sur le terrain, pour aller voir les oiseaux, la beauté de la création, parce que finalement, il y a plein de passages aussi dans la Bible, je pense à Romains 1 et d'autres, qui parlent de la beauté, les cieux racontent la gloire de Dieu, et en fait, simplement d'être dans la nature, c'est aussi une façon de pouvoir sentir la présence de Dieu à travers de sa création, etc. Donc voilà, on fait de la formation, et puis donc à travers notre programme d'ambassadeur, on a donc la possibilité de former, on forme des gens aussi par Zoom, et on les envoie sur le terrain pour aller parler dans les églises, pour aller sensibiliser et témoigner dans les églises.
Alors, dernière question, le temps avance tellement vite, on pourrait parler pendant des heures. Est-ce que l'écologie, c'est pas une question de riche? Dans le sens où l'écologie, il faut le voir, on prend l'exemple de la voiture, certaines personnes roulent avec des voitures qui sont âgées, mais parce qu'ils ne peuvent pas changer. Alors c'est un petit exemple, mais finalement certaines personnes mettent en avant le fait que le mettre en avant l'écologie, c'est au détriment du social ou peut-être des personnes qui n'ont pas les moyens de s'orienter sur l'écologie ou de faire un effort sur l'écologie.
Oui. Alors, oui et non, on n'aurait pas le temps de développer trop maintenant, mais effectivement, l'écologie, ça a souvent été un peu un luxe de riche, effectivement. Il y a plein d'études sociologiques qui montrent que plus on a un niveau d'éducation avancé, universitaire notamment, plus on s'intéresse à l'écologie. C'est aussi des études qui ont montré, c'est une échelle de... plus on a moins, entre guillemets, moins on a de problèmes existentiels, hein, moins on a besoin de se concentrer sur trouver à manger, trouver à se vêtir, trouver à se loger, et plus on peut s'intéresser à des questions plus, je dirais, entre guillemets, de luxe. Mais en même temps, c'est pas du tout une question de riche, parce qu'aujourd'hui, les problèmes écologiques, c'est principalement les pauvres qui en souffrent. On a parlé du problème du changement climatique, mais dans n'importe quelle ville de France, vous pourrez remarquer qu'en général, les pauvres, ils habitent dans des endroits plus pollués, moins sympas, à côté des usines, etc.
Moins isolés.
Voilà, ils ont froid, etc. Exactement. Donc, c'est Voilà, on pourrait en parler pendant longtemps.
Oui, j'ai ouvert un questionnement et vous pouvez peut-être en débattre avec Arocha aussi.
Juste si je peux dire un petit mot, on a actuellement plusieurs offres d'emploi qui vont être publiées prochainement. Donc si vous êtes intéressé de venir rejoindre Arocha, on a deux offres de service civique à pourvoir avant le 31 décembre. Donc avis aux auditeurs, vous trouvez l'info sur notre site internet arocha.fr. En un seul mot, A-R-O-C-H-A. Et puis on a deux offres d'emploi qui vont être publiées prochainement en communication et en animation du réseau des ambassadeurs. Donc, avis aux amateurs.
Le message est passé. Bien.
On a vu que vous êtes tourné vers Cédric et moi. on parlera salaire en sortant.
Ouais, c'est ça, d'accord.
Ce que on avait déjà entendu à propos d'Arocha, et c'est, je trouve très intéressant, c'est une notion d'accompagnement aussi. Une église qui souhaiterait cheminer justement pour un mode de fonctionnement plus écolo, bah, vous pouvez les accompagner, sauf erreur. Hein,
tout à fait, bêtises, oui. Alors, oui, il y a le réseau Église Verte qui a été lancé en partie par Arocha et d'autres. Qui peut effectivement aider les églises à se saisir de cette question. Et puis, on peut aussi venir parler de ces sujets avec vous.
Oui, effectivement. Et parce qu'on pourrait être culpabilisé en tant qu'église. Souvent, notre bâtiment n'est pas bien isolé. Ou si c'est une église en dite traditionnelle, ben, c'est un bâtiment grand, au plafond, etc. Donc, écologiquement, souvent, on ne sait pas super élève. Donc, voilà, on peut avancer pas à pas et sans être... effectivement mis au pilori aussi, donc c'est intéressant de le savoir avec Arocha. On vous garde avec nous, Jean-François Mouhot, directeur national d'Arocha, et on va accueillir notre invité suivant, qui s'appelle Cédric Eugène. Petit jingle, et on l'accueille.
Les acteurs de l'événement Centre évangélique sont au micro de En coulisses. Coulisses, la web radio du Centre évangélique.